Estamos.
La voix des judéo-espagnols, une émission préparée par Bella Lustig
et présentée par Liz Gutmann, con mucho placer y alegría.
Venida buena, Bella.
Venida buena.
Alors, nous avons aujourd'hui un invité, puisqu'il s'agit de Dominique Vidal, le fils de Chaim Vidal Sefira, qui est avec nous en studio. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter votre livre à quatre mains, à deux voix, une interview. On va parler de tout ça dans quelques instants. Ma vie pour le judéo-espagnol. Paru aux éditions Le Bordelot dans la collection Judaïsme, dirigée par notre ami à Judaïque FM, Antoine Spire. Alors, Bella, on va commencer par donner des infos.
Oui, tu peux déjà en donner quelques-unes.
Oui. Donc, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que Aquí Estamos sera omniprésente dans le cadre du Festival des cultures juives de Paris, qui va se tenir jusqu'au 23 juin avec de nombreuses activités, des temps forts. Alors, parmi donc les temps forts, il va y avoir la rencontre des chorales judéo-espagnoles avec la chorale de Marlène Samoun, et on attend un peu impatiemment leur récital. Ce sera le 14 juin. Tout est dans le programme du festival. Et puis, également, donc, toujours dans le cadre du festival, Aquí Estamos sera présent avec un stand dans le cadre de la journée du 21 juin au Carreau du Temple organisé par Yiddish Sans Frontières. Donc déjà, c'est quelque chose de formidable, Bella, pour rencontrer le public. Hein. C'est quelque chose de très important. Et toujours dans le cadre du festival, il y aura la conférence musicale de Kelly Basilio, Nora Seni, Quelle liberté pour les Juifs de Turquie, Musique et Contes avec le trio Camry et François Hazard, et puis le concert du groupe canadien Arashi Gerineldo, et on trouve tout ça sur le site d'Aquí Estamos.
Oui, absolument. Tout le début de la journée se passe à l'Institut Cervantes.
À l'Institut Cervantes.
Faudrait
voilà.
Le préciser.
Bien sûr, exactement. Et ensuite, Arashi le soir à 20h. Et puis, voilà, donc vraiment omniprésent. Beaucoup de.
Oui, puis les activités courantes, hein, ça continue.
Voilà.
Le mois de juin, c'est le dernier. Le dernier mois où il y aura
voilà.
Les.
Et puis avant, je voulais qu'on n'oublie pas le concert à Rachi du collectif Sephardi qui
mené
aura
par
lieu.
Muriel
voilà, mené par notre amie Muriel que j'embrasse au passage. Et ça, ce sera le 3 juin au soir
voilà.
À 20h30, réservé auprès de l'espace Rachi. Non ? À quelle heure ? Non, c'est pas le 3 juin ?
Oui, c'est déjà passé, hein, c'était hier.
Ah, c'était hier, pardon.
Ben oui, Lise.
Oui, bien sûr, c'était
hier.
Oui, c'est vrai.
J'espère que vous étiez nombreux.
Oui.
Voilà.
Oui, exact. Donc, en tous les cas, ça ne nous empêche pas d'embrasser Muriel.
Ah, ben ça, c'est certain.
Alors, tout de suite,
alors,
on continue.
Juste tout de même, n'oubliez surtout pas.
Surtout pas,
c'est très important. Notre troisième université d'En Verano de Judío. Notre université d'été
judéo-espagnole
voilà.
Du 5 au 10 juillet à Paris.
Exactement. Alors, vous nous appelez au 06 98 52 15 15 pour vous inscrire très vite, parce que nous ne pouvons pas dépasser un certain nombre de personnes dans les ateliers pour pouvoir travailler vraiment.
Bien sûr. Voilà. Alors, des ateliers, des conférences, langue, chant,
absolument
cuisine,
tout.
Film, expo, concert, un programme de folie à
voilà.
Ne pas rater. On trouve tout sur le site de l'association Aquí Estamos.
Oui,
sepharadinfo.org. Voilà, de mémoire, c'est Farad avec un F et 06 98 52 15 15.
Tu le connais par cœur.
Ah oui, mais on annonce beaucoup les Aquí Estamos sur Judaïque FM. Dominique Vidal, vous saviez que le monde judéo-espagnol vibrait comme ça ?
Oui, oui, bah quand même.
Oui.
Mon père m'en parle
vous
suffisamment.
En parle
il a donné une telle impulsion
absolument.
Que vraiment, il doit
sans
être
lui,
même...
Hein.
Absolument.
Ah ben, il doit être ravi, je pense, de voir tout ce qui se passe. Quoi.
Tout à fait.
D'autant que même notre judéo-espagnol, il est pratiquement même transmis aux jeunes. Quoi. C'est
oui,
extraordinaire.
Bien sûr.
Il y a vraiment un renouveau magnifique. Alors, Dominique Vidal, on est ravis de vous recevoir donc, pour le livre que vous avez écrit avec Chaim Vidal Sefira, qui est une figure mythique de notre judéo-espagnol. Et donc, vous êtes, vous-même, vous êtes né à Paris, vous êtes essayiste, journaliste au monde diplomatique.
Absolument, oui.
Très bien. Vous avez publié également pas mal d'ouvrages. Je ne sais pas si l'état du monde 2015 est déjà paru.
Oui, oui, bien sûr.
C'est formidable. Donc, il s'appelle Nouvelle Guerre.
Voilà, on fait chaque année hein, l'état
chaque année,
du monde à la
ça.
Découverte
ah,
avec Bertrand Badi.
Donc, je vous invite à le lire. Vous êtes également, je crois, professeur de sociologie à l'université, toujours.
Non.
Vous n'êtes plus.
J'ai jamais enseigné à l'université.
Ah bon, mais alors j'ai eu un mauvais renseignement.
Et je m'en porte très bien.
Ah bon. Bon.
Le rôle de journaliste et d'essayiste est plus donne plus de liberté, disons. Voilà.
Bon, bah, écoutez, tant mieux. Comme ça, vous pouvez vous adonner à vos passions. Eh bien, écoutez, donc moi, comme je vous le disais, je suis ravie de vous recevoir parce que j'ai découvert finalement votre livre à la belle présentation que vous avez faite au Musée d'Art et d'Histoire avec Raïm Vidal Sefira qui était présent. Que nous saluons, si tu nous écoutes, Vidal. Bésicos, hein.
Oui, bésicos, c'est sûr.
Des mots autres stones. Bon, alors donc, moi, je me suis plongée dans votre livre, hein, que je trouve vraiment passionnant, original, par sa forme d'abord, parce que ce dialogue entre père et fils, je trouve ça très, très nouveau. Et vraiment, on entre dans la vie, vraiment, et on a envie d'en savoir plus. C'est formidable. Et vraiment, j'ai été extrêmement touchée. Alors, je voulais quand même vous demander déjà, comment vous est venue cette idée d'écrire ce livre, quel a été le déclic ?
Écoutez, c'était au départ un autre livre, de regards croisés de mon père, Raïm, donc,
oui.
Et de son frère cadet, Jacques,
oui, dont vous parlez
oui.
beaucoup,
qui
beaucoup,
ont
oui.
eu à la fois des liens extrêmement étroits, jusqu'à la mort de Jacques en 2000, mais en même temps deux vies très différentes. Qui commence différemment parce que mon père fait des études alors que mon oncle Jacques n'en fait pas beaucoup. C'était un cancre, on peut dire. Ensuite, mon oncle Jacques, qui, adolescent, devient résistant, cache des juifs dans toute la région de Bruxelles où la famille vivait, alors que mon père est encore dans ses études. Et puis, le hasard fait que l'un est devenu belge, mon père,
oui.
et que l'autre, comme l'essentiel de la famille d'ailleurs, est resté turc. Ça donne deux parcours de déportation complètement différents, puisque oui. les juifs belges étaient déportés à Auschwitz.
Et les
et donc
autres,
mon père oui, a été à Auschwitz. Alors que les juifs turcs, donc citoyens d'un pays plutôt allié de l'Allemagne,
oui,
étaient déportés aussi,
oui.
mais dans des camps qui n'étaient pas des camps d'extermination, comme Buchenwald, où mon oncle a été avec son père, ou bien Ravensbrück, où les femmes de la famille se sont retrouvées. Donc, si vous voulez, il y a eu ensuite, après-guerre, deux vies complètement différentes, à mon avis marquées par les deux types de déportations, c'est-à-dire que mon père est devenu quelqu'un qui s'est plongé jusqu'au bout, jusqu'aujourd'hui, dans le judéo-espagnol pour retrouver la langue de sa mère, qu'il adorait, alors que mon oncle, après une année en Israël, la guerre d'indépendance d'abord.
Oui, il y a un chapitre d'ailleurs là-dessus qui est fort intéressant.
Ensuite, lui est devenu un militant politique. Il a été porteur de valises pour les républicains espagnols jusqu'à la fin des maquis en 53-54. Et ensuite, il a été porteur de valises pour le FLN algérien. Ouais. Il a été très lié aux Vietnamiens. Il a beaucoup travaillé dans les contacts israélo-palestiniens. Bref, c'était deux vies très différentes. Et donc l'idée était
assez
de croiser
oui.
les regards. Malheureusement, mon oncle est mort, donc il est resté. Après tout, c'était aussi valable, je crois, la
oui.
preuve.
Oui, bien
cette
sûr.
Idée d'aller avec mon père dans une plongée dans sa vie à lui et dans ce qui a motivé son changement de vie dans les années 50.
Moi, j'ai une petite question. Quand avez-vous su tout au long de votre vie que votre père avait été déporté?
Moi, je l'ai su plutôt petit. Je l'ai su quand j'avais 7-8 ans. bien que ma mère ait interdit à mon père
d'en parler,
mais il m'en a quand même parlé. Et c'est ensuite, quand je l'ai retrouvé après une dizaine d'années où nous nous sommes quasiment pas vus, à cause de la séparation de mes parents, je l'ai retrouvé et on a parlé très profondément de cette période de sa vie, d'Auschwitz, de la déportation. Et d'ailleurs, ça m'a amené à faire un livre aussi sur la Shoah, relu par les historiens allemands, je veux dire la jeune génération, c'est les historiens qui sont nés après 1945, qui est le premier livre en France qui a parlé des travaux de ces historiens qui avaient avec eux la chance d'avoir toutes les archives que n'avaient pas eu les historiens d'avant.
Évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais justement, donc le déclic pour écrire ce livre, c'est quoi exactement donc ?
C'est, disons,
ça s'est passé,
la promesse faite à mon oncle qu'on ferait ce livre. Oncle n'était plus là, mais on a
c'est
voulu.
C'est une fidélité.
Et mon père et moi avons voulu tenir parole, puisqu'on s'était engagé à faire ce livre.
C'est presque un devoir de mémoire. Quoi.
Voilà, et comme vous l'avez vu, puisque vous avez lu le livre, mon oncle est très présent.
Très présent
dans le livre.
Ah oui, absolument.
Ça n'est pas seulement une parole en l'air.
Non, vous étiez très attaché.
Moi, c'était mon père de substitution
pendant une dizaine
d'années.
Vous le racontez d'ailleurs.
Voilà.
Et pas n'importe quelles années, puisque c'est les années de la préadolescence et de l'adolescence.
Et oui,
donc,
c'est d'une importance.
C'est un moment où j'avais
besoin d'avoir quelqu'un
un
à qui
père
parler.
Proche de moi.
Voilà.
Les années de formation, en fait,
on peut
le dire, oui.
Voilà.
Alors, peut-être, avant d'aller un peu plus avant, pourquoi Vidal et pas Sefira ?
C'est très lié au fond du livre. C'est-à-dire que moi, une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est d'essayer de m'y retrouver dans mes racines. Puisqu'avec mon père, avec la famille Sefia, j'ai des racines séfarades.
Bien sûr.
Plus particulièrement sicilienne, et ça, on en a trouvé la preuve, ce qui est très curieux, d'ailleurs.
Oui, c'est formidable.
Il
n'y
a pas beaucoup de familles qui peuvent dire avec certitude d'où elles viennent et quand ont obliqué d'un pays à l'autre. Et d'autre part, je voulais comprendre aussi le rapport avec la famille ashkénaze, et qui plus est très israélite, comme on dit en France, qui était la famille Wolf, la famille de ma mère.
Alors, pour continuer à parler de tout cela, c'est dans quelques instants, juste après la pause. Et l'on retrouve notre émission ce matin à Qui est Homos avec Bella Lustig, notre invitée Bella, Dominique Vidal pour le livre « Ma vie pour le judéo-espagnol », coécrit à quatre mains avec Raïm Vidal Sefira. C'est sous forme d'entretien, on va le dire.
Absolument.
C'est un dialogue permanent, c'est ce qui fait tout le sel, toute l'originalité du livre. Et donc, Dominique Vidal, c'est paru au bord de l'eau, collection Judaïsme, dirigée par Antoine Spire. Bella.
Alors, je voulais juste une question. Comment Raïm Vidal passe-t-il quand même ? Il était chimiste et devient linguiste. Que s'est-il passé ?
C'est clair, c'est la mort de sa mère, très peu de temps après ma naissance. Moi, je nais en juin 50 et sa mère meurt en juillet 50.
Oui.
Ah oui, c'est vraiment.
Et donc, il y a un choc pour lui qui adorait sa mère et sa mère l'adorait.
Et qui avait été déportée aussi, sa maman.
Sa mère a été déportée aussi, qui est revenue. Elle a été en Turquie.
Oui.
On l'a emmenée de Ravensbrück avec ses deux filles jusqu'en Turquie, puisqu'on ne pouvait pas, les Allemands estimaient ne pas pouvoir les exterminer, puisque c'était
des citoyennes turques,
comme je le disais tout à l'heure.
Oui.
Donc, on a cette mort qui le marque d'une manière terrible, et il décide de se reconvertir dans la linguistique, l'hébreu, l'espagnol, le judéo espagnol.
Il est polyglotte.
Oui, il parle une vingtaine de langues.
Son parcours universitaire est juste passionnant. La façon dont ça s'est fait dans la France de l'époque est très édifiant.
Ce qui, à mon avis, et j'espère que le livre le montre, est très intéressant, c'est que ça n'est pas un universitaire pur jus. C'est-à-dire, il fait le parcours universitaire parce qu'il faut le faire pour aboutir à sa chaire, à l'époque, la seule au monde.
C'est la seule, absolument.
De judéo-espagnol, à l'INALCO. Mais en même temps, il fait ses ateliers de judéo-espagnol au centre Rachi.
Il
y a en permanence, et c'est très rare chez les universitaires, cet aller-retour entre la langue comme on peut l'apprendre et l'enseigner dans l'université et la langue telle qu'on peut la retrouver
au quotidien.
La parler avec ceux qui l'avaient apprise ou la parlaient encore. Et je trouve que ce double mouvement, qui ensuite se traduit avec la création de l'association Vidas Largas, et ensuite avec la bataille pour qu'il y ait une plaque en judéo-espagnol à Auschwitz.
Nous le devons à lui, il faut absolument
C'est vraiment grâce à lui.
C'est grâce à lui, c'est battu pour ça.
Et à Michel Azaria, qui l'a beaucoup aidé. Donc on a un double mouvement qui explique qu'il ait réussi à être, comme il le dit avec fierté, le réveil matin du judéo-espagnol.
Mais complètement.
Qu'il ait donné envie à des centaines et des milliers de gens de reprendre possession de leur langue d'origine.
Oui, d'ailleurs, il écrit un premier livre, L'agonie des judéo-espagnols. Et là, vraiment,
c'est un ouvrage de référence dans la matière.
C'était vraiment un des premiers livres, je crois, qu'il ait écrit.
Oui, absolument.
L'idée
ici, c'était de lui permettre de donner le background humain, personnel, familial de toute cette vie. Et pas seulement d'en rester à l'exposé universitaire qui était le sien.
Bien sûr.
Alors, juste vous demander, est-ce qu'il vous a transmis cet amour du judéo-espagnol ? Vous le parlez, vous le transmettez ? Quelle est votre position là-dessus ?
Non, j'ai pas de position. J'ai une situation qui est l'absence de père pendant 10 années où j'aurais pu l'apprendre.
Vous en parler.
Je comprends le judéo-espagnol parce que je parle espagnol, mais je n'ai pas bénéficié d'une transmission personnelle particulière, ni mes enfants.
Qu'est-ce que l'écriture de ce livre a changé dans vos relations avec votre père? Est-ce que ça a été un plus? Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple, il y a un chapitre sur la déportation où il donne des détails terribles. Ouais. Est-ce que vous le saviez? Est-ce qu'il a profité du livre que vous écriviez pour peut-être vous dire des choses que vous ignoriez parce qu'elles sont trop dures à dire? Qu'est-ce que ça a changé?
Je vais être franc parce que sinon, c'est pas bien d'enjoliver les choses. Si je peux dire les choses brutalement, nos comptes étaient réglés depuis longtemps. Depuis le moment où j'avais compris, quand j'étais adolescent d'ailleurs, que ma mère et moi, nous étions les victimes collatérales d'une passion à la fois scientifique et personnelle qui avait entraîné leur divorce. Et donc, je n'en ai jamais voulu à mon père. Et en fait, le livre n'aurait pas pu se faire si nous n'étions pas dans des relations complètement apaisées depuis très longtemps.
Donc,
pas ça que le livre a changé. Ce que le livre a changé, c'est, je crois pour lui, la possibilité de mettre tout ensemble, sa vie personnelle, sa vie scientifique, et de retrouver et d'exprimer toute la cohérence qu'il y a chez lui dans ces deux vies. Et je crois que pour moi, ça m'a aussi appris énormément de ce que pouvait être une vie construite. Beaucoup de nos vies, à nous tous, sont des vies qui se mènent au fur et à mesure des événements, des événements tristes,
des événements gays.
Oui,
plus gays, bien sûr.
Lui, c'est vraiment une vie qui a été construite par la déportation Auschwitz, bien sûr, mais qui l'a construite, qui l'a lui-même décidé, et en faisant des sacrifices terribles. Et je veux le dire parce que les gens qui l'adorent, il y en a beaucoup, ne savent pas quel prix ça a eu. Ça a eu le prix d'être veilleur de nuit d'hôtel la nuit pour gagner un peu d'argent, guide de touristes l'été pour gagner un peu d'argent. Bref, il a dû tout sacrifier, y compris beaucoup de sa vie personnelle, de sa vie de père, de sa vie de mari, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Il est entièrement habité par cette passion.
Oui, mais vous n'avez eu aucune réticence à essayer d'extirper un petit peu vraiment tout le... Ça n'a pas été trop dur pour lui, pour vous? Vous avez mis beaucoup de temps pour tout cela?
Honnêtement, on a mis 6 mois. On a mis 6 mois pour faire les interviews.
Oui.
Ensuite, j'ai mis 2 mois pour les mettre en forme. Mais je ne dirais pas que ça a été dur. Il y a des moments durs dans le livre.
Oui, c'est évident.
Quand mon père me dit qu'il ne pouvait pas m'aimer en 1950 parce qu'il revenait de la déportation,
peur pour vous, en fait,
où il avait perdu déjà énormément de proches et que c'était trop difficile pour lui de m'aimer. Bon, c'est pas une chose qu'on entend facilement.
J'ai lu ça, je me suis dit que ça avait dû être très dur pour vous.
C'est dur à faire. Mais si vous voulez, le livre, c'est passer dans, avec une atmosphère de joie qu'on doit sentir, j'espère, très forte, parce qu'il y a beaucoup
même.
De complicité.
On sent la complicité, l'entente,
oui,
Bella, tu
complètement.
Trouves pas?
Et puis, tout de même, il y a une connivence, et puis il y a un besoin quand même de se retrouver. Enfin, il y a ce côté émouvant, moi, qui m'a beaucoup
oui.
touchée.
Et puis, même sur des sujets où chacun sait que nous n'avons pas la oui. même vision, notamment sur le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, oui. Mais... on voit, ça va étonner beaucoup de gens, combien nous sommes respectueux l'un et l'autre de l'opinion
oui, ça
de l'autre.
C'est important.
C'est ce qui ressort d'ailleurs de tout le livre. Hein.
Et moi, oui. j'en sors aussi convaincu que c'est bien d'avoir ce respect mutuel dans le débat, y compris sur des
oui,
questions
difficiles.
Oui, ce
sont des retrouvailles pour vous, une renaissance vraiment peut-être aussi
pour lui.
Grâce au judéo-espagnol pour lui.
Alors,
voilà.
L'émission touche à sa fin. Je suis absolument désolée, j'aurais bien voulu qu'on continue à en parler. On va se quitter sur une petite pause musicale que tu nous as apportée, Bella.
Oui, parce
que Chaim aime beaucoup.
Ah oui, El Rey Nimrod, à chaque fois que nous allions dans les ateliers, il aimait bien terminer les ateliers avec cette chanson. Et c'est donc...
La version d'Yoram Gaon.
Bah voilà, c'est la meilleure.
Voilà.
Écoutons-la.
Exactement.
Et merci beaucoup, Dominique, d'être venu.
C'est moi
qui
vous remercie.
Merci beaucoup, Dominique Vidal. Très, très vite, Ma vie pour le... judéo-espagnol, coécrit avec Chaim Vidal Sefira, un livre à découvrir absolument. Merci, au revoir.
Merci.
Quando la Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrería, vido luz santa en la judería que había de nacer. Abraham Avinu, Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día él le preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Quando la re Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrería, vido luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.